Alors, on dit quoi?
Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois. Le Ramadan a commencé depuis déjà 3 semaines et cette année, il se passe dans un contexte assez particulier car nous apprenons à vivre avec le nouveau coronavirus en attendant qu'un vaccin soit trouvé. Si dans certains pays comme le Burkina Faso, les mosquées ont rouvert, dans d'autres pays, par exemple le Sénégal et le Niger, les lieux de culte sont encore fermés. En France, la crise sanitaire a occasionné une réorganisation des associations comme le Secours islamique qui, pendant le Ramadan, avait pour habitude de servir des repas collectifs pour la rupture du jeûne. Comment préserver le caractère communautaire du Ramadan à l'heure où le Covid nous isole les uns des autres? Comment êtes-vous organisé pour mener à bien ce mois sacré pour les musulmans? Les jeûnes, je ne vous oublie pas, avec toutes les mesures de distanciation sociale imposées pour limiter les contaminations du Covid-19. Faites-vous quand même le Ramadan ou pas? Je le sais bien, c'est physiquement épuisant, mais rassemblez vos dernières forces et venez discuter avec nous. Dites-nous comment ça se passe chez vous. Alors on dit quoi? Vous ouvre ce micro. Al-Cheng et on y va.
Alors on dit quoi? Fenaï Traoré.
Nous recevons Brima Elidiko, sociologue au Mali. Bonjour.
Bonjour.
Et Rachid Lalou, président et fondateur du Secours islamique en France. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à tous les deux sous notre arbre à palabres. Et je vous invite à écouter ce reportage tourné à Dakar, la capitale sénégalaise, où les fidèles musulmans, comme partout ailleurs dans le monde, font le Ramadan cette année avec certaines contraintes à cause du nouveau coronavirus. C'est un reportage d'Estelle Ndiandjo.
Il est 17h dans le quartier de Ouest-Foire à Dakar. Philly, 26 ans, termine de peaufiner le site internet sur lequel il travaille. Chez Philly, un rappel des mesures sanitaires nous accueille dans le vestibule, ainsi qu'un espace spécial pour déposer son masque.
J'ai improvisé avec le Covid, donc j'ai essayé de créer un tableau qui me permet de m'organiser dans la semaine.
Ce jeune informaticien tente d'organiser son temps entre télétravail et prière. Philly a réussi à allier sa foi et le numérique. Il se définit lui-même comme un Daïra 2.0. Chez les Mourides, mouvement religieux majoritaire au Sénégal, un daïra fait partie d'une communauté de croyants regroupés autour d'un guide spirituel.
On partage un fichier Excel, un peu comme ça, où on a le nom des différentes personnes qui doivent apprendre leur partie du Coran qu'on appelle un djouz.
Un moyen pour Philly d'entretenir le lien communautaire pendant cette période de Ramadan.
Sur Telegram, tu vois, pour le 4 mai, à 2h, il y a Yamar qui a ouvert la lecture de Coran. Qui, je précise, est en France actuellement. Et chacun se signale après la lecture de sa partie.
Depuis le 23 mars dernier, le président Macky Sall a déclaré l'état d'urgence sanitaire, limitant les déplacements et mettant en place un couvre-feu de 20h à 6h du matin. Des mesures restrictives qui ont poussé Philly à prendre ce Ramadan plus au sérieux qu'à la normale.
Par exemple, la lecture modulée du Coran là, que l'on fait, clairement, c'est la première fois depuis très longtemps que je fais ça de manière aussi assidue.
Entre le couvre-feu, le calendrier islamique à respecter et les horaires de travail décalés, Adam, la colocataire de Philly, a eu du mal à s'y retrouver.
Alors déjà, mon calendrier il est super chamboulé. Donc je me réveille à 7h du matin et je vais au travail. Donc je travaille jusqu'à 16h, je rentre, je fais à manger. On mange, je prie et je vais dormir. Donc journée typique maintenant avec la pandémie, je me réveille à quoi, 16h.
Cette chef de projet de 26 ans vit loin de sa famille. Pour combler ce manque, Adam et ses sœurs, basées respectivement en Russie, à Dubaï et aux États-Unis, s'envoient quotidiennement des photos de leur repas dégusté lors de la rupture du jeûne.
Alors, il y en a une qui a fait du fonio hier, du fonio avec de la pâte d'arachide. Il y en a une qui a fait du poulet au four. Il y en a une qui a fait, elle a fait quoi? Du dibi hier.
Depuis mi-avril, les cas positifs au Covid-19 ont été multipliés par 7 dans le pays. L'augmentation de la transmission dans les communautés inquiète plus particulièrement les autorités. Si certains pays d'Afrique de l'Ouest ont décidé de rouvrir leurs mosquées pour le Ramadan, les autorités sénégalaises jouent la prudence.
La fermeture des mosquées et le fait de ne pas pouvoir faire l'appel à la prière, c'est très lourd pour les musulmans.
imam Khalifa Ndiaye, en place depuis plus de 20 ans dans le quartier.
On a un événement qui est survenu et ceux qui sont compétents en la matière, c'est-à-dire les médecins, ont donné des directives. Tout comme aujourd'hui, le marabout peut donner des directives par rapport à la loi islamique, les médecins ont donné des directives.
L'imam nous accueille chez lui, dans une maison adjacente à la mosquée. Khalifa Ndiaye arbore un masque chirurgical et se met volontiers à plusieurs reprises du gel antibactérien sur les mains. Il est 18h, la rupture de jeûne approche. L'odeur de cuisine envahit le foyer. Les plus jeunes enfants de l'imam reviennent de la boulangerie baguette en main. Aux abords des murs de la mosquée, quelques fidèles viennent prier face à des portes closes. Le moment privilégié de la rupture du jeûne est devenu un moment difficile à vivre pour certains.
En général, pendant le ramadan, les plats venaient de partout à destination des plus démunis. Beaucoup de personnes venaient pour rompre le jeûne à la mosquée. Mais en cette période de Covid, on a dû restreindre. Les gens viennent un à un. Les plus proches de la mosquée viennent pour prendre de quoi rompre leur jeûne.
Cette rupture du jeûne, Awa, 22 ans, la vit désormais avec mélancolie.
Clairement, la nostalgie des repas en famille refait surface. Ça te manque en fait, ça me manque vraiment. Le plus dur, c'est la solitude. C'est la solitude. Le fait de ne plus manger avec la famille, le bonheur.
Awa est d'origine tchadienne. Elle est arrivée à Dakar en 2016 pour ses études de médecine. Depuis la fermeture des établissements scolaires et de la faculté, l'emploi du temps d'Awa a été quelque peu allégé.
Normalement, en fait, tu partais à l'école, tu faisais tes stages, tu bossais, ceux qui travaillent, tu faisais des mouvements. Donc, sûrement, tu vas avoir soif et tu vas avoir faim. Donc, c'est ça la différence. Parce qu'avec la pandémie, ça va, en fait, c'est pas trop compliqué.
Malgré tout, Adam s'estime chanceuse.
Enfin, le confinement, pour moi, il y a pire. Ces moments-là, en fait, sont faits pour que tu puisses te reconnecter avec toi-même et pouvoir mieux affronter, enfin, je vais dire, le monde extérieur, en fait.
Le Sénégal a prolongé l'état d'urgence jusqu'au 2 juin prochain. Aussi, les mosquées risquent de rester fermées jusqu'à la fin du ramadan. Estelle Djandjo, Dakar.
Brahima Elidiko, vous êtes sociologue au Mali. Et là-bas, la situation est tout autre. Vous avez écouté ce reportage. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce que vous avez entendu?
Alors, ce que je peux dire, c'est que la situation est tout à fait différente au Mali parce que les mosquées n'ont pas été fermées une seule fois.
Oui.
D'ailleurs, avec le ramadan, on assiste encore à des attroupements au niveau des mosquées, à des prières collectives. Ces prières collectives aussi s'observent dans des rues, souvent dans des familles. Et puis, au niveau de certaines mosquées, on a souvent des ruptures collectives organisées par certains imams ou d'autres bienfaiteurs qui amènent des nourritures de toutes sortes.
Ça veut dire que les gens ne respectent pas la distanciation sociale.
Alors, c'est vrai qu'au niveau des mosquées, non. Au niveau des transports publics, on appelle les sotramas, qui sont des transports privés, ce n'est pas du tout respecté. Au niveau des taxis, il y a encore 3-4 passagers qui empruntent le même taxi sans même se connaître. Au niveau des marchés, sont bondés, à la fois au niveau du grand marché de Bamako, mais aussi dans toutes les villes du Mali. Les transports, les compagnies de transport ont essayé de mettre en place des dispositifs au moment de l'embarquement, donc les gens se lavent les mains. Mais bon, après, chacun se promène un peu avec son gel. Et il y a des personnes qui utilisent les masques, mais bon, beaucoup disent que non, c'est une maladie occidentale, qui ne touche qu'aux riches.
Il y a toujours les fake news qui envahissent encore l'espace public pour l'information. Et là, à vous écouter, on sent bien que c'est difficilement respecter les mesures de restriction liées au coronavirus. On reviendra sur tout ça tout à l'heure. Rachid Lalou, vous avez écouté ce reportage, une réflexion sur ce que vous avez entendu?
Écoutez, moi je suis au courant de ce qui se passe d'une manière générale en Afrique, dans les pays du Sahel et l'Afrique du Nord. Les situations diffèrent énormément d'un pays à un autre.
Oui.
N'oubliez pas la dimension économique, parce que les gens ont besoin de sortir pour d'abord se nourrir. Parce que énormément de personnes vivent le jour, ils ne peuvent pas se confiner. Donc il y avait une sagesse de certains pays de ne pas confiner justement les populations, pas par malveillance, mais tout simplement que c'est impossible. Et puis je pense la réaction de certains pays, même saluée en Occident, qui était rapide et radicale, a permis de limiter, entre parenthèses, les dégâts par rapport à ce qui se passe, par exemple, en France. Donc, je pense que chaque pays a essayé de gérer comme il peut et comme il le souhaite,
oui,
cette crise. Et c'est pas facile, on en parlera tout à l'heure pour la France, c'est pas facile de vivre le Covid longtemps, d'une manière générale, pas seulement pour les musulmans. Des personnes qui sont isolées, qui sont tout seuls, les gens des EHPAD, énormément de personnes, j'ai entendu les étudiants,
oui.
Une situation dramatique, parce que parfois ils manquent tout simplement de ressources, ils ne peuvent pas faire face à leurs besoins, il y a l'arrêt des cours, ils ne savent pas ce qui va se passer pour l'année. Mmh. Donc il y a beaucoup de choses qui mettent en difficulté les personnes, les humains, jeunes ou plus vieux.
Et quel impact tout ça a sur la pratique du ramadan cette année ?
Concernant la pratique, elle est excellente, moi je veux dire. C'est quand même assez particulier parce que le ramadan, c'est un moment spirituel pratiquement individuel. C'est entre toi et Dieu. Le jeûne, même quand tu sors, les gens ne s'aperçoivent pas. Moi, je parle de la France.
Mais il y a aussi une dimension communautaire.
Et c'est la seule chose qui manque. C'est la seule chose qui manque. Mais parfois, je pense même que ça peut être quelque chose de positif dans la mesure où les gens sortent pas seulement pour aller à la mosquée et on perd parfois les valeurs du ramadan. Ce confinement a un côté négatif, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir de relations sociales, familiales, plus large, je dirais, du terme. On ne peut plus aller à la mosquée pour faire la prière. Je parle de la France et de certains pays qui sont en confinement même concernant les mosquées. Mais d'un autre côté, ça permet à la famille, la petite famille, pour une fois de se réunir. Moi, j'ai eu
de resserrer les liens familiaux.
J'ai vu beaucoup de pères qui commencent à faire la prière avec les enfants. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir ce lien de proximité, de discuter de pas mal de choses. Je pense que c'est le côté positif. Bien sûr, le côté négatif, c'est la fermeture des mosquées. Et on sait combien la mosquée est un élément central dans la pratique religieuse communautaire en islam.
Nous avons des auditeurs qui souhaitent intervenir. Et notre premier auditeur nous appelle de Conakry, en Guinée. Bonjour Ibrahima.
Bonjour.
Dites-nous, qu'est-ce qui a changé cette année pour vous pendant le ramadan à Conakry?
Pendant ce mois de ramadan, beaucoup de choses ont changé en Guinée, notamment si vous prenez le transport commun. Il est interdit de voir le nombre de passagers exact comme avant. Pratiquement, c'est 3 passagers dans un taxi.
Oui.
Dans les 2 derrière, 1. Tout près du chauffeur devant. Dans les minibus couramment appelés ici Magbana, c'est 7 personnes ou 10 personnes. Les cars, le gros format, c'est 16 ou 20 personnes. Et puis les tronçons aussi ont doublé.
Et pour ce qui est du ramadan, comment ça se passe? On sait que les gens ont besoin de faire des courses, d'aller au marché, et les marchés ferment apparemment très tôt. Comment ça se passe? Et les prières collectives aussi, tout ça ne peut plus avoir lieu.
Bon, comme vous l'avez entendu déjà, presque toutes les mosquées, les lieux de culte sont fermés, les mosquées et les églises, donc pas de prière collective. Chacun mange son plat à partir de chez lui ou avec sa petite famille, c'est-à-dire la maman ou madame et les enfants terminés. Voilà. Et puis les marchés aussi, à partir de 16h, les marchés sont fermés.
Ça, c'est une décision. Donc il faut s'organiser beaucoup plus tôt pour faire ses courses.
Exactement, il faut faire toutes les courses le matin, parce qu'à partir de 16h, les marchés sont déjà clos.
Mais
je le disais tantôt, les musulmans ont du mal à faire leurs petites courses, parce que vous savez, quand on dit il faut limiter le nombre de passagers dans les véhicules, que la rareté fait la valeur,
oui.
C'est tellement difficile, même si l'État a dit qu'il y avait des bus gratuitement octroyés à la population, mais...
L'applicabilité sur le terrain est difficile.
Difficile, combien de bus et combien de passagers? Vous allez faire des heures et des heures à la plaque pour avoir passé un bus.
Oui.
Imaginez ce que ça fait.
Et finalement, et puis, les heures passent et vous êtes en retard. Et nous avons d'autres auditeurs qui nous attendent, Ibrahima Souma. Merci beaucoup pour votre intervention et très bonne journée à vous à Conakry. Omar Thiam du Sénégal, bonjour Omar.
Oui, bonjour.
Vous trouvez bien que les lieux de prière soient fermés?
Oui, je trouve que c'est bien décidé par l'État parce que il y a beaucoup de choses. Les personnes ne prennent pas la maladie en sérieux, quoi.
Oui.
Parce que des fois, elles ne respectent même pas la distanciation pour que les gens soient 1 mètre, 2 mètres après 1 mètre, quoi.
Oui.
Ils ne respectent pas les normes En plus aussi, les ports de masques aussi, c'est la même chose. Donc je trouve que c'est mieux de fermer les mosquées jusqu'à ce qu'on puisse trouver une solution. Ouais.
Et vous, personnellement, qu'est-ce que ça a changé dans votre ramadan cette année? Vous allez en famille pour la rupture du jeûne ou comment ça se passe?
Oui, j'avais l'habitude d'aller à la grande famille, c'est ma mère, et avec ma femme, pour couper le jeûne là-bas.
Tout le monde se retrouvait en famille?
Oui, on se retrouvait en famille, on faisait tout, on buvait du thé ensemble. Mais à cause du maladie, on ne peut pas faire ça parce que ici, à cause du couvre-feu, on ne peut pas se déplacer dans certaines heures, quoi.
Oui.
Mais en ce moment, je le fais avec ma femme et ma petite fille qui a 1 an et demi dans ma chambre, quoi. Parce qu'on n'a pas le droit de sortir certaines heures. Et
donc, cette année, vous avez abandonné l'habitude d'aller en grande famille?
Oui, j'ai abandonné. J'ai abandonné. En même temps aussi, j'ai abandonné d'aller à la prière le soir. Les nafilés, on le faisait ensemble. L'imam nous donnait des conseils durant le ramadan, comment se comporter. Mais cette année-ci, on a un autre ramadan, quoi, différent de...
Oui, c'est un peu différent des années précédentes.
Oui, c'est ça.
Merci beaucoup Omar Thiam pour ce témoignage depuis Dakar. Je me tourne vers vous, chers invités. Vous avez entendu ces auditeurs qui ont évoqué parfois leur nostalgie des ramadans passés.
Allez-y, je vous en prie.
Non, allez-y.
Bon, il faut choisir quelqu'un. Voilà, Brima, il dit quoi, je vous écoute.
D'accord, merci bien. En fait, effectivement, pour eux, c'est assez difficile, mais pour le cas malien, c'est assez... différent parce que d'abord l'État a pris des mesures concernant par exemple le transport en commun, mais ça n'a pas été respecté parce que ce sont des transports en commun, mais c'est des opérateurs privés qui possèdent de leur car et qui transportent les gens. Après, bon, ce qu'on a pu faire, c'est de leur donner un peu des dispositifs de lavage de mains, mais même là, ce n'est pas respecté. Bon, il y a beaucoup qui empruntent ces transports en commun sans utiliser des masques. Et bon, chacun peut fabriquer son masque aussi à sa manière. S'agissant des mosquées, il n'y a jamais eu de décision officielle de fermeture des mosquées. Donc les gens ont continué à aller à la mosquée. Bon, certains ont abandonné, par exemple comme moi, dès qu'on a annoncé le premier cas, je ne suis plus allé. Et donc il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à faire ça. Mais malheureusement, quand le ramadan a commencé, on a commencé à assister à une affluence au niveau des mosquées, notamment les vendredis et les prières du soir. Parce que le couvre-feu a été instauré au Mali, mais le couvre-feu commence à 21h. Donc, du coup, les gens ont le temps d'aller à la mosquée pour prier, revenir. Simplement, il y a quand même un impact négatif, notamment pour beaucoup de célibataires qui ne vivent pas en famille,
oui,
qui sont en location.
C'est l'occasion d'apprendre à cuisiner, voilà, quand on est célibataire.
Oui. Donc, alors, malheureusement, l'éducation malienne fait que, bon, c'est la cuisine, c'est... C'est le royaume des femmes.
Eh bien, il faut que ça change, il faut que ça soit aussi pour les hommes.
Absolument. Coronavirus est l'occasion justement pour chacun d'apprendre au moins à faire les pâtes. Et puis bon, parce qu'avant, les célibataires sortaient, aller au niveau des gargotes, acheter par exemple le dîner,
oui,
et après le repas pour 5 heures du matin. Mais malheureusement, avec le couvre-feu, c'est pas possible. C'est difficile d'avoir accès, en fait.
Et comment ils font, du coup, comme ils ne peuvent plus aller acheter à manger dehors, et comment ils font? Ils font la réserve pendant la journée?
Ils achètent. C'est-à-dire qu'il y a des vendeuses qui commencent à sortir au lieu de s'installer à 17h comme d'habitude. Il y a des vendeuses qui commencent à s'installer dès 15h. Comme ça, les gens ont le temps de faire des stocks. Et puis après, bon, ben, chacun se débrouille pour réchauffer ou pas.
Oui.
Sinon, bon, officiellement, l'État avait promis des masques. Donc, on a commencé la distribution gratuite à tous les Maliens. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas encore eu les masques.
Et surtout qu'il faut que les gens sachent bien utiliser les masques. Et les masques, ça n'empêche pas de toujours respecter les mesures de distanciation sociale et les gestes barrières. Rachid, je reviendrai vers vous, Brima Elidiko. Rachid Lalou, qu'est-ce que cela a changé dans le fonctionnement du secours islamique cette année pendant le ramadan? Qu'en est-il de vos ruptures de jeûne collective? Vous avez abandonné cette pratique, vous êtes passé au maraude?
Oui, exactement. Donc pas mal de pays, y compris en France, malheureusement. Et pour tout le monde, ça fait partie des choses qui peut-être ont changé pour les musulmans un petit peu partout dans le monde. C'est ce partage qu'on faisait dehors, dans pas mal de pays. Et il y avait des tentes qui étaient dressées dehors pour les gens qui sont dans le besoin. pas que les gens isolés viennent manger. C'était le cas pour nous à Paris, où on avait un chapiteau depuis plus de 10 ans, hors de Paris, où plus de 1000 personnes par soir viennent manger, musulmans, non musulmans, jeûneurs ou non jeûneurs.
Oui.
Cette chose-là, et c'était quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel, où on vit un mois intense avec 150 bénévoles. Chaque jour qui se relaie pour assurer les services.
Et là, cette année, vous avez dû changer de mode de fonctionnement.
Exactement. Ça ne veut pas dire qu'on a diminué en termes de quantité. Malheureusement, cette crise-là a montré la misère et la pauvreté d'une frange de population qui vivait juste, mais avec la crise, ils se sont trouvés en difficulté. Et donc, nos distributions ont doublé, tout simplement. D'abord, nous distribuons des colis pour les familles.
Oui.
Et depuis le début du Ramadan, c'est des repas complets, c'est-à-dire soupe, plat et dessert, dattes, etc., sont pactés, et on les distribue ou bien dans les foyers de personnes en difficulté.
Vous faites du porte-à-porte.
De porte-à-porte, exactement, c'est ce qu'on les appelait les maraudes, et en plus les gens qui sont dans la rue. Également, on a des centres d'accueil de femmes seules ou avec enfants qui sont dans le besoin avec le 115 et qui sont dans nos centres d'accueil. Ça continue à fonctionner. L'épicerie solidaire, où les gens ont l'habitude, les gens en difficulté, bien sûr, viennent se nourrir. Ils sont de moins en moins parce qu'il y a le confinement, mais il y en a qui continuent à venir parce qu'ils sont dans le besoin. Et on a distribué également des colis pour...
Des kits Covid où on trouve du gel hydroalcoolique, des masques et tout ça. Vous avez distribué ça aussi?
Il y a eu deux distributions. Une distribution avant le Ramadan qui s'appelait le Covid-19 et ce n'était pas seulement en France, le Mali par exemple. On avait distribué et il y avait deux éléments de ce colis. Il y a deux colis. Un colis alimentaire et un colis d'hygiène.
D'accord.
En plus de ça, certaines missions de non-missions des pays, ils se sont mis à fabriquer des masques et les distribuer.
Pour les distribuer aux populations. Chers invités, restez avec nous pour la suite. Nous retrouverons d'autres auditeurs en deuxième partie d'émission. Et l'initiative que nous mettons en avant cette semaine, c'est le panier de la solidarité proposé par l'ONG Sachet Eloué qui est au Bénin. La présidente Sandra Idossou répondra à nos questions juste après cette chanson.
Enfant béni de Dieu, par sa grâce il accomplit toujours mes vœux. Tout ce que je touche rend les gens heureux, il fera encore plus cette nouvelle année. J'ai eu en peu de temps ce que je n'aurais pu imaginer. Il m'a élevé faisant de moi un chevalier. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Oh. Par sa grâce, je suis devenu un témoignage. Oh.
Je veux louer.
Merci à Pauline et Laurie qui sont aux manettes pour cette belle pause musicale avec Baby Philippe qui nous chante Chevalier de Dieu. Vous écoutez Alors on dit quoi? Et aujourd'hui, nous parlons de la pratique du Ramadan rendue quelque peu compliquée dans certains pays cette année avec le coronavirus.
Alors, on dit quoi? Penaïd Traoré.
Et tout de suite, nous recevons Sandra Idossou. Bonjour Sandra.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'association Sachet Éloué au Bénin. Et cette année, disons, en ce moment, vous avez décidé de donner un autre objectif à votre association.
Tout à fait. C'est vrai que nous sommes une association qui, en temps normal, milite pour la protection de l'environnement. Mais face à la pandémie actuelle, on ne pouvait pas rester les bras croisés parce que la situation est tellement catastrophique dans nos pays, dans nos quartiers, au niveau, je dirais, économique, parce que beaucoup de personnes qui travaillaient et qui vivaient au jour le jour se sont retrouvées du jour au lendemain sans revenus. Donc, on a réfléchi ensemble et on s'est dit qu'on pouvait nous mettre en collectif et proposer des paniers alimentaires.
Mais vous avez pris les devants sans attendre les mesures sociales du gouvernement?
Parce que je pense que le gouvernement en ce moment a énormément de difficultés, d'abord pour nous assurer un certain nombre de choses au niveau sanitaire, avoir des masques, avoir des appareils. Enfin, au niveau sanitaire, je pense que le gouvernement est beaucoup plus focalisé sur ces mesures. Et malheureusement, au niveau social, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on s'est dit, en attendant que le gouvernement fasse quelque chose, mais proposons des paniers alimentaires
à des familles.
C'est ce que nous proposons. C'est juste des paniers avec des produits vivriers pour que les gens mangent, parce que toutes ces personnes qui vendaient au bord de la route, qui ne vendent plus. On a ici au Bénin ce qu'on appelle par exemple les Tokwa Tokwa, ce sont les conducteurs de minibus.
Oui.
À cause du cordon sanitaire, parce que le Bénin a été presque coupé, donc le sud est un peu coupé et le transport en commun est interdit. Donc tous ces chauffeurs de camions, de minibus n'ont plus de source de revenus. Et donc, quand nous préparons nos paniers alimentaires, nous leur mettons tout simplement de quoi manger. Voilà, du riz, du haricot, du gari, du sucre.
Et votre objectif, c'est d'atteindre 2000 familles. Vous y parviendrez?
Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on est parti très optimiste parce qu'on se dit la solidarité fait partie de nos valeurs africaines. Dans nos cultures, on a toujours appris à être solidaire. Donc, on s'est dit, 2000 familles, c'est pas beaucoup. En plus, par rapport aux nombreux millions ou milliards qui passent comme ça, on s'est dit, bon, nourrir 2000 familles, ce n'est pas énorme. Donc, on a été très optimistes. On est encore très loin.
Et comment procédez-vous pour offrir ces paniers de la solidarité?
Alors, nous utilisons énormément les réseaux sociaux pour collecter les dons. Donc, nous demandons aux gens de contribuer soit en envoyant de l'argent sur un numéro mobile pour acheter les produits, ou nous demandons tout simplement aux gens qui ont les produits alimentaires de nous les déposer. Et chaque vendredi, nous les mettons tous dans des petits paniers que nous allons distribuer. Ce qui fait que nous ne savons pas à l'avance combien de paniers nous allons pouvoir offrir, parce que tout dépend des dons que nous recevons. Hier, par exemple, nous avons eu la chance de recevoir un peu plus, donc nous en avons distribué hier et demain, nous allons encore distribuer. Donc, ce qui fait que on va atteindre chaque semaine au moins 100 paniers. Et c'est vraiment ça l'objectif. Mais évidemment, si on arrive à avoir des dons
plus, qui nous permettent
de prendre 500 paniers en une semaine, ce serait vraiment très, très bien. Est-ce que je voudrais dire?
Oui, rapidement.
Quand on a lancé cette action, on ne savait pas à quel point La précarité était déjà ancrée, je dirais, aussi proche de nous.
Oui.
Il a fallu quelques jours de cordon sanitaire pour voir que du jour au lendemain, les gens qui nourrissaient leur famille n'avaient plus rien à leur donner. Donc, je voudrais qu'on ait quand même un regard, surtout en ce moment de Ramadan ou en ce moment de partage. C'est vrai que c'est des moments difficiles pour tout le monde.
Oui.
Et c'est important de comprendre que pendant que nous sommes en train de nous plaindre pour ceci, pour cela, il y a à côté de nous des gens qui veulent juste un bol de riz. Imaginons juste un bol de riz, juste une bouillie, et c'est tout ce dont ces personnes ont besoin. Donc, ayons un regard vers ces personnes.
Merci Sandra, et bonne suite pour votre initiative.
Merci à vous et à très bientôt.
Rapidement, une réaction. Rachid Lalou, que pensez-vous de cette initiative? Elle répond parfaitement à l'esprit de solidarité pendant le mois de Ramadan, qui est doublé d'une crise sanitaire mondiale cette année.
Tout à fait. Je pense que cette crise a réveillé chez énormément de personnes
ce qui est dans notre instinct, c'est-à-dire de partager, d'aider les autres. En plus des structures traditionnelles, des grosses structures qui font tout ça toute l'année, pendant des années, bien structurées, bien organisées, avec des idées, énormément d'initiatives qui ont vu le jour partout dans le monde, en France et en Afrique.
Oui.
Comme a dit votre invité tout à l'heure, c'est une habitude parfois plus en Afrique que dans d'autres pays, cette générosité se partage dans la grande famille, mais dans la grande communauté. Mmh. Je pense que c'est quelque chose qui est formidable et c'est quelque chose qui a permis de résister un peu plus pendant cette crise-là.
De faire face, oui.
Bien sûr, parce qu'il y a un danger, il y a un risque. Vous imaginez, vous mettez des populations en quarantaine et tout simplement, ils ne peuvent pas trouver de quoi manger s'il n'y a pas cette solidarité au niveau par voie des gouvernements quand ils ont les moyens, parce que tous les gouvernements n'ont pas les moyens de soutenir leur population, mais cette générosité débordante des voisins, des petites associations, des petites structures.
Oui, il faut un apport de tout le monde. Rima et Lidiko, généralement pendant le mois de Ramadan, il y a cet esprit de partage dans les pays africains. On va offrir de la bouillie, du sucre ou d'autres produits alimentaires à ses proches, ses connaissances. Est-ce que cet esprit est encore présent cette année avec la propagation du Covid-19? Les gens n'ont pas peur de recevoir de la nourriture venant d'autrui? N'y a-t-il pas une certaine méfiance?
Bon, effectivement, la méfiance est là, mais vous savez, c'est une tradition. On est obligé de donner de la nourriture à ses beaux-parents, des sacs de sucre, des choses comme ça, de l'huile, donc de faire...
À ses voisins.
À ses voisins, donc dans les quartiers, au niveau de la mosquée. Et d'ailleurs, avec la pandémie, les gens ont senti la crise, parce que vous savez, le Mali est un pays pauvre, très endetté. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui vivent au jour le jour. Et malheureusement, avec le couvre-feu qui est instauré à partir de 21h, donc il y a beaucoup de personnes qui travaillent le soir, qui n'ont aucun revenu, qui sont certains dans des situations très difficiles. Donc, la situation de la pandémie a obligé, ou du moins a incité en tout cas beaucoup de Maliens à se mettre ensemble dans des
solidaires
ou dans des clubs, à être plus solidaires,
oui.
Et donc à offrir des choses, ce qui fait que dans tous les quartiers maintenant, on voit qu'il y a des cadres qui commencent à s'organiser et à faire des dons de riz, d'huile, des choses comme ça. C'est vrai que le risque est là, mais bon, beaucoup de personnes utilisent le savon, donc les gens essaient de prendre quand même les précautions requises pour pouvoir préparer les plats ou en tout cas offrir les cadeaux dans de bonnes conditions.
On donne la parole tout de suite à Boniface Keïta qui est au Mali. Bonjour Boniface.
Oui, bonjour.
C'est difficile cette année de respecter, de faire son ramadan et de respecter les mesures de distanciation sociale. Comment ça se passe pour vous?
Effectivement, au Mali, c'est un peu difficile de respecter les conditions. On constate que les kits d'équipement de lavage des mains ne sont pas à la disposition de la plupart des mosquées.
Mais les gens continuent quand même d'aller, de faire les prières collectives, les ruptures du jeûne de façon collective. Les gens continuent quand même.
Effectivement, les gens continuent toujours à faire la prière collective et puis la rupture des jeûnes ensemble. Donc on peut dire que ça n'a rien changé en ce moment de carême.
Et vous personnellement, vous qui êtes à Gao, comment ça se passe pour vous dans votre famille? Comment vous êtes organisé?
Bon, chez nous ici, quand même, on respecte les conditions de mesure.
Merci beaucoup Boniface pour votre témoignage et très bonne journée à vous à Gao. Sadibou Konaté qui est au Sénégal, bonjour Sadibou.
Ah, bonjour.
Vous, comment ça se passe chez vous, dans votre famille, le ramadan cette année?
Oh ça, les habitudes ont un peu changé parce qu'en fait, après la rupture du jeûne, il y a la prière qu'on devait faire à la mosquée, mais malheureusement, comme les mosquées sont fermées, on est obligé de le faire en famille.
Oui.
Et de respecter les directives de l'autorité administrative, puisqu'il y a un couvre-feu à partir de 20h. Donc, on est obligé de faire toutes les courses avant cette heure-là et voilà, de rester à la maison et de prier ensemble.
Et comment ça se passe, les relations sociales avec votre entourage pendant ce mois de Ramadan?
Oui, c'est devenu très difficile, d'autant plus que c'était le moment d'aller rendre visite à certains parents, d'appuyer certains, de donner ce qu'on appelle le secours au corps, c'est-à-dire une aide pour raffermir les liens, etc. C'est-à-dire un montant en argent où on a mis du sucre ou bien de la nourriture, etc. pour appuyer certains. Mais malheureusement, on est obligé de revoir beaucoup de choses, soit tu envoies de l'argent, soit essayer de voir seulement, ou tu appelles par téléphone. Donc vraiment, sur ce plan-là, il y a beaucoup de changements. Même par rapport à certaines habitudes, pour ce qui est du marché, par exemple, il y a des changements. D'en plus, le transport est devenu un peu difficile, par exemple, à Dakar actuellement. Donc, beaucoup de choses ont été revues.
Et les gens respectent quand même, les gens essaient de respecter toutes ces mesures ou vous, vous constatez que c'est difficilement, c'est compliqué de les respecter par la population?
Non, il y a la majorité qui respecte, même s'il y a quelques réticences, mais il y a la majorité qui respecte quand même. Parce qu'en fait, il y a aussi un problème de santé publique en réalité. Maintenant, il faut prendre conscience de cela, que par exemple, même par rapport à la religion, la vie de l'être humain est sacrée. Donc, il est dit que, par exemple, l'individu qui a une maladie doit éviter de contaminer les autres. Maintenant, si on est dans une zone où il y a une maladie contagieuse, on ne doit pas sortir de cette zone.
Oui.
Et si on est dans une zone qui n'est pas contaminée, on ne doit pas entrer dans cette zone. Maintenant, il faut noter que partout, il y a des brebis galeuses, il y a des gens qui ne respectent pas du tout.
Oui.
Il y a les jeunes qui sortent après 20 heures, qui se défoulent ou bien au niveau de la plage à certaines heures, et la police est obligée de faire des descentes, etc., pour les disperser. Mais de manière générale, les gens respectent.
Merci beaucoup, Sadibou, et très bonne journée à Dakar.
Ok, merci, au revoir.
Brahima Elidiko, vous avez écouté ces auditeurs, notamment des auditeurs du Mali. Il y a un qui nous a dit qu'il n'y avait pas de kit de lavage de mains dans les mosquées. Et on sait aussi que parfois, il y a des coupures d'eau. Comment la population se débrouille? On dit tout le temps qu'il faut régulièrement se laver les mains. Mais quand il n'y a pas d'eau, on ne va pas privilégier le lavage des mains tout le temps.
Ah ben oui, effectivement, le problème d'eau au Mali est un problème très sérieux, y compris à Bamako d'ailleurs, où on voit des gens se réveiller très tôt pour faire la file indienne, pour pouvoir espérer avoir 20 litres, 40 litres qu'il faut par ailleurs payer. Et donc, d'autres qui n'ont pas forcément de forage ou peut-être ont des puits traditionnels à la maison. Donc, dans les quartiers où l'accès à l'eau est difficile, bah, l'eau est utilisée pour le repas et peut-être pour la consommation habituelle. Très peu pour... les gens dans ce cas-là préfèrent utiliser des gels ou bien ne respectent pas du tout les mesures parce qu'ils se disent, bon, il appartenait au gouvernement de s'assurer que l'eau allait couler pour tout le monde. Et en plus de ça, il y a aussi toujours des coupures intempestives qui font que les gens sont obligés de sortir dehors. Et comme il fait extrêmement chaud, c'est quand même 42, 43 degrés, la nuit, ça peut aller jusqu'à entre 27 et 30. Donc les gens sont obligés de se mettre à la porte ensemble sans vraiment respecter les mesures barrières. Et c'est aussi un des reproches adressés d'ailleurs au gouvernement. Mais en dehors de ça, vous savez, le Mali, depuis 8 ans, est dans une sorte de guerre interminable. Donc,
l'état d'urgence est permanent, rétabli au Mali.
Donc, du coup, les gens, à un moment donné, en ont marre. Et c'est pour ça que ces 5 derniers jours, on commence à voir des manifestations dans toutes les villes du Mali. Bamako, c'est encore pire parce qu'on commence même à brûler, à mettre le feu dans certains commissariats pour dire que bon, le couvre-feu, il faut mettre fin à ça.
Oui.
Et que de toute façon, il faut vivre au jour le jour. Si Dieu veut que les gens attrapent la maladie, ils vont attraper. Les gens ont connu ici au Boula, ils ont connu le paludisme.
Et les gens, ils se disent à un moment donné, on y va et si on est immunisé, tant mieux. Si on n'est pas immunisé, on tombe malade et voilà, et on assume les conséquences.
Exactement, c'est ça en fait le problème parce que le Mali avait eu la chance d'être le seul pays de cette zone sahélienne à ne pas connaître des cas. Donc, malgré tout, nos frontières sont restées.
Et finalement, à un moment donné, quand même, les cas ont été détectés dans le pays.
Et les cas ont été détectés à partir des vols qui sont venus de la France. Et donc, du coup, ça a créé une frustration au sein de la population qui s'est dit, mais l'État aurait pu empêcher que ça arrive par les avions. Malheureusement, c'est arrivé par les avions. Et quand les gens sont venus, ils n'ont pas été mis automatiquement en quarantaine dans un hôtel.
Là, les populations dénoncent plutôt l'arrivée tardive des mesures appliquées par le gouvernement. Je me tourne vers Rachid Lalou. Un dernier mot que pouvez-vous dire à toutes ces personnes qui font le ramadan cette année dans un contexte Covid-19, surtout les jeunes, que leur dites-vous pour bien mener ce ramadan malgré les mesures de distanciation sociale?
Déjà, le jeûne, on vit. C'est une bénédiction. Je parle en tant que croyant, mais je pense même, du point de vue médical, toutes les études disent que le jeûne est un élément essentiel pour régénérer beaucoup de choses dans le corps qui est fatigué par le fait de manger tout le temps. Donc déjà, c'est une bonne chose pour le corps, le jeûne. Je pense que cette crise, et pendant le ramadan, on l'a souligné tout à l'heure, a montré un certain nombre de solidarité, de proximité qui s'est réveillée et que les craintes qu'on a eues que les choses se fassent plutôt mal, elles ne sont pas arrivées.
Oui.
Moi, je pense qu'il faut respecter les consignes. Les États n'ont pas tous les mêmes moyens pour Parce que maintenant, avec les communications, on voit ce que fait ce pays-là, ce qu'il fait. Enfin, mais moi qui connais beaucoup l'Afrique, on a beaucoup d'émissions, de bureaux à Dakar, à Bamako, au Tchad, Madagascar, Kenya, etc. On est proche des populations, on essaye de les aider à fabriquer des masques, à les éduquer sur l'hygiène, les gestes barrières, à leur fournir les éléments pour faire de la prévention. Tout ça, il faut les respecter. C'est parce que c'est pas parce qu'on n'a pas attrapé cette maladie qu'elle n'existe pas.
Oui.
Et la prévention, elle est toujours meilleure, même si elle est un petit peu exagérée, parce qu'à un certain moment, on va reprocher qu'on n'a pas pris les mesures les meilleures pour faire face. Et on voit dans certains pays où les mesures n'ont pas été prises au bon moment, les catastrophes qui ont suivi.
Oui.
Je pense que la protection ne fait que du bien. Maintenant, le monde va changer. Moi, je pense que j'espère, parce qu'on va se réveiller avec autre chose quand on va sortir. La crise, elle est mondiale. On est dans un village aujourd'hui. On n'est plus dans des pays fermés, etc. Mmh. Et il y a un auditeur qui a bien souligné quelque chose qui est ancien. Les épidémies, c'est pas récent. Même religieusement parlant, et il l'a bien dit, c'est-à-dire que même pendant la période prophétique, il avait dit que s'il y a une épidémie pareille, ceux qui sont dans ce pays-là, dans cet endroit, ne doivent pas sortir.
Mmh.
Les gens qui sont enceintes dans un autre endroit ne doivent pas rentrer. Vous voyez bien que ces choses-là, ces gestes barrières existaient déjà.
Pour se protéger, ça existait déjà bien avant.
Exactement. Parce que quand elle arrive, la maladie, quand elle attrape, c'est fulgurant, c'est énorme. On n'espère toujours pas la voir. On la prend à la légère parce qu'elle n'est pas visible, on ne la voit pas. Mais les gens ont des témoignages, des personnes qui sont guéries.
On pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres jusqu'au jour où nous-mêmes on est frappé par le virus. Brahima Elidiko, un dernier mot rapidement.
Alors rapidement, je voulais simplement rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est que chacun doit avoir conscience que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et que de toute façon, cette maladie va passer rapidement en fonction de nos conjugaisons en fait, d'efforts, que chacun respecte les mesures barrières, pour à la fois se protéger, mais pour protéger ses proches. Ce n'est que comme ça que le salut viendra pour tous.
Merci à vous, à nos invités, d'avoir participé à l'émission du jour. Rachid Lalou, président et fondateur du Secours islamique, et Brahima Elidiko, sociologue au Mali. Merci à tous les deux d'être restés avec nous.
Merci à vous, merci à vos auditeurs, et un grand merci à travers vous à tous nos bénévoles qui se déploient malgré tout avec les risques qu'ils prennent pour être auprès des gens qui sont en difficulté en France et dans le monde. Merci à vous.
Merci, le message est passé.
Alors on dit quoi ?
Il y a des auditeurs qui ne peuvent pas nous appeler, mais ils peuvent nous laisser des messages pour nous parler de ce qu'ils font, nous encourager ou attirer l'attention sur un sujet. Je vous propose d'écouter ce message de la semaine qui nous vient de la RDC.
Ouais, salut, alors on dit quoi? C'était Tennis Okobo depuis Kinshasa, jeune artiste, graffeur, membre au sein du collectif Mouindotag. Voilà, enfin de lutter contre le coronavirus, le collectif Mouindotag, dont je suis membre, on a fait un graffiti, un street art, voilà, une fresque émirale pour essayer de sensibiliser la population sur la lutte contre le Covid-19. Et sur ce, on a repris les différents gestes et barrières et les messages qu'on a fait passer sur les murs, c'était « la santé n'a pas de prix, donc on m'y battait la bonnie ». Voilà, la petite partie là, c'est en lingala, c'est-à-dire « la santé n'a pas de prix et comment allons-nous nous protéger ?». Et puis après, notre message ne consistait pas seulement à sensibiliser la population, on voulait aussi interpeller les autorités. Voilà, parce qu'en Afrique, certaines mesures prises par les autorités afin de lutter contre le Covid-19 ne sont pas vraiment mises en application, faute des moyens, voyez, tels que rester chez vous ou rester confiné aussi longtemps que la plupart des Africains vivent autour du jour. Ils doivent s'y démerder, essayer de sortir pour gagner les pains quotidiens parce que la plupart n'ont pas de provisions, la plupart n'ont pas d'économie, même pas de compte à banque. Et du coup, il y a un dilemme, soit rester à la maison et se protéger, mais mourir de faim, soit sortir, aller chercher son pain quotidien au risque de se contaminer. Voilà, big up.
Merci Tata Niozo pour ce message. Comme lui, si vous voulez nous envoyer vos messages, vos coups de gueule, le numéro de téléphone, c'est le 33 647 740 742. Je sais que vous attendez, vous appréciez ce moment autant que moi. Eh bien, c'est le coup de cœur musical de la semaine. Avant de découvrir la chanson, je vous laisse écouter ce petit message que l'artiste nous envoie.
Salut, salut. Alors, on dit quoi chez vous? Chez moi, ça va pas, la grâce de Dieu. C'est vrai qu'avec la situation actuelle, c'est pas facile, mais on essaye de s'adapter. Alors, je suis Owena, artiste chanteuse burkinabé. Natacha Winkuni Wedrago, c'est mon nom à l'état civil. Je suis également communicatrice de formation. Et la musique, pour moi, c'est pas juste une passion, c'est aussi une vocation. Et mon titre Mawa traite de la femme. Ça veut dire ma mère là, dans ma langue maternelle, c'est Amoré, et c'est pour rendre un vibrant hommage à toutes nos mamans, à toutes celles qui ont toujours su nous soutenir. Et je l'ai écrite, cette chanson, pour ma mère, pour lui dire tout simplement merci.
Sur Mawa d'Owena, j'ai été ravie d'avoir passé ce moment en votre compagnie. Merci à toute l'équipe de l'émission. Alors on dit quoi revient samedi prochain. Demain est un autre jour. Faisons en sorte qu'il soit meilleur qu'aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous et de vos proches. Kaoumbe.